Bonsoir à tous. Ce soir, le syndicat de l'industrie informatique de la CNT pour l'émission Le Monde Merveilleux du Travail va vous parler d'un nouveau sujet qu'on n'a pas encore abordé. Il s'agit du licenciement. Donc, pour ce faire, nous avons ce soir Colin et Feridoun à la technique, qu'on remercie, qu'on salue au passage.
Bonsoir, bonsoir.
Et pour vous parler donc de ce sujet-là, Clément, qui est avec moi.
Bonsoir.
Et moi-même, donc Guillaume. Alors, je vais vous donner un petit peu le plan global de tout ce qu'on va essayer d'aborder à ce sujet-là, le licenciement. Vous allez voir qu'il y a des choses qui sont très transversales, hein, donc qui ne sont pas propres ni spécifiquement à l'informatique, ni à notre convention collective qui est la Syntec. On va essayer d'aborder plus précisément des sujets qui nous sont propres dans ces généralités. Alors, globalement, on va essayer d'aborder dans un premier temps les trois types de licenciements qui existent, c'est-à-dire les généralités sur les cas de licenciement. Ensuite, la procédure légale. Ensuite, comment se défendre, ce qui nous intéresse sans doute le plus. Et une dernière partie sur les droits. Donc, ça va dans l'idée de se défendre. On va voir plusieurs aspects à quoi le salarié a droit quand il se fait licencier. On va voir qu'il y a beaucoup de choses à dire et à ne pas oublier. Donc, on lance tout de suite. Alors, on va en parler plus précisément pour une raison, c'est qu'on a en ce moment plusieurs camarades dans le syndicat qui sont concernés par du licenciement dans leur entreprise. On donnera pas forcément les noms des entreprises et des personnes pour des raisons évidentes. Mais bon, voilà, sachez qu'on a notamment des personnes concernées par des cas de licenciement économique, qui sont actuellement ou qui ont été concernés par des cas de licenciement économique, ce qui peut s'appeler, selon les cas, plan social, plan préservation de l'emploi, etc. Et on a aussi, c'est mon cas, des personnes qui sont concernées par d'autres types de licenciements qu'on va détailler. Alors pour commencer, peut-être un petit topo sur les principaux cas de licenciement. Donc là, pour cette première partie, ça va être assez similaire en fait à ce qu'on, enfin même pas assez, complètement similaire à ce qu'on peut trouver dans le monde du travail de manière générale. Il faut savoir que le code du travail définit trois types possibles de licenciement, qu'on travaille dans l'informatique ou dans tout autre domaine. Donc en premier lieu, il y a le licenciement économique, ensuite le licenciement personnel disciplinaire et le licenciement personnel non disciplinaire. Et on va voir enfin qu'il y a une notion très importante qui est transversale à ces trois types de licenciement, qui est la cause réelle et sérieuse. Alors ça à la fin. Donc voilà, licenciement éco, personnel disciplinaire ou personnel non disciplinaire. Si on est licencié de son entreprise, quoi qu'il arrive, ce sera forcément dans le cadre d'un de ces trois motifs. Ça va en principe rentrer forcément là-dedans. Sinon, c'est qu'il y a un problème. Donc d'abord, le licenciement économique, alors c'est peut-être celui qui est le plus, comment dire, populaire en ce moment, je sais pas si on peut dire ça.
C'est la saison, hein, pour
le dire. Ouais, voilà, c'est ça, ça doit être la saison, c'est la crise, je sais pas. On dit beaucoup ça en ce moment-là, c'est la crise, donc PSA, Aulnay, et puis Florange, je crois, et nos amis, qui soient dans la métallurgie ou dans beaucoup d'autres domaines, sont concernés. Bon, c'est sûr que c'est un peu triste, mais malheureusement, il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans cette perspective-là en ce moment, c'est-à-dire, en gros, alléger la masse salariale, pour utiliser les termes de management qui ont cours à notre monde merveilleux du travail. Donc ça veut dire simplement, on a trop de frais, pour réduire ces frais, on va virer des gens, ce qui permet d'alléger les dépenses en termes de salaire et de cotisations qui vont avec. En gros, c'est ça, un motif économique, voilà, ça va pas chercher loin, tout le monde comprend.
Et donc, un motif économique, ça n'a pas besoin d'être justifié par l'entreprise.
Alors, si.
C'est-à-dire en termes de bénéfices ou de perte de chiffre d'affaires ou...
Bah si, heureusement. Heureusement, okay. Quand même. Enfin, théoriquement, on va dire, en tout cas, tout motif de licenciement, quel que soit le motif, normalement, doit être justifié. On peut pas dire, ah bah tiens, je vous vire pour tel motif, et puis, voilà, démerdez-vous avec ça, cassez-vous. Il faut forcément que l'entreprise soit à même de justifier de ce qu'elle est en train de faire.
Okay, donc si c'est un licenciement économique, elle doit pouvoir justifier de difficultés financières ou... D'accord.
En principe.
Ouais, bien sûr.
Effectivement, elle est censée pouvoir dire « Ah bah vous voyez, sur les comptes des deux dernières années, admettons, on a une perte de CA, et puis on a encore une perte sur cette année, et puis voilà, on est dans le rouge dans nos comptes, etc. etc. » C'est un peu ce qu'avait... Alors, c'est pas ce qu'avait fait mon entreprise, c'est ce qu'avait essayé de faire mon entreprise à l'époque où ils avaient fait deux vagues successives de licenciements économiques. Ils avaient viré trois personnes de mon équipe en plus, et ensuite quatre personnes également de mon équipe, et c'était motif économique, et il s'était basé sur le fait que l'entreprise avait encore à l'époque des dettes, donc elle avait eu plein d'années de difficultés financières, effectivement il y avait eu des dettes, machin, truc, donc là l'entreprise était en pleine croissance en termes de chiffre d'affaires. Mais elle avait essayé de se baser sur le fait que bon, il y avait encore des dettes non remboursées, qu'il y avait encore une fragilité financière. Donc, on vire les gens en France et on délocalise à Madagascar la production. Et c'était sur ce motif-là que le licenciement économique avait été lancé. Alors, bonne nouvelle, enfin, si on veut. Entre-temps, il y a deux des sept salariés qui se sont portés au prud'homme et qui ont gagné leur prud'homme. Donc, le tribunal a reconnu que le motif invoqué par l'entreprise n'était pas suffisant. Et effectivement, quand on regardait les chiffres d'affaires et bénéfices de l'entreprise, à la fois les années où elle a licencié et au-delà, on se rend très bien compte que le chiffre d'affaires est en progression constante, les bénéfices aussi. Donc en fait, le tribunal a vu assez facilement que les motifs étaient bidonnés.
Ouais, d'accord.
Donc heureusement, on peut gagner. Malheureusement, dans beaucoup de cas, les entreprises ont des combines sur tout ce qui est économique, notamment quand c'est des grosses boîtes, elles ont tout un tas de filiales, et puis tous les bénéfices, on les déclare dans les paradis fiscaux, on paye très peu d'impôts, machin, et toutes les pertes, on les déclare...
Ouais, c'est ce qu'on a entendu récemment avec Apple, ouais. Microsoft, Amazon...
Ouais, voilà, ce genre de choses. Voilà. Google, ils sont à moitié au Luxembourg, à moitié en Irlande, à moitié aux Bermudes, et puis voilà, par un jeu de fiscalité avantageuse, ils se mettent des milliards dans la poche.
Par contre, ils vont pas en France.
France, ils vont dire, ah là, vous comprenez, on est dans le rouge, on a des millions de pertes, machin. Et puis, on va virer des gens parce que on est dans le rouge. Et effectivement, dans certains cas, malheureusement, ça passe parce que, quand on regarde les comptes, c'est dans le rouge et donc plan social, comme on dit, plan antisocial plutôt. Mais... Ah, voilà. Donc oui, théoriquement, une entreprise est quand même obligée de se justifier, quel que soit le motif, y compris motif économique. Et sachant qu'économique, c'est quand même normalement, en tout cas, assez contraignant pour l'entreprise. Non seulement elle est censée pouvoir se justifier, mais en plus, elle doit s'occuper des salariés qui seraient concernés par des licenciements. C'est-à-dire qu'avant de prononcer un licenciement, il est censé y avoir une recherche de solutions alternatives par l'employeur, qui est censé faire ce qu'on appelle du reclassement. Donc il est censé dire, est-ce que ces employés que je vais licencier parce que, par exemple, admettons, je vais fermer tel service au complet pour économiser, est-ce que je peux pas les reclasser dans tel autre poste, tel autre service?
Mais c'est un reclassement au sein de l'entreprise.
Reclassement au sein de l'entreprise, ou au sein des filiales, éventuellement, ouais. Si c'est une grosse boîte... Donc normalement, oui, ils sont censés faire ce travail et proposer, avant de licencier, des solutions concrètes, c'est-à-dire voir les salariés et dire, voilà, on a tel problème, difficulté financière, donc on envisage de fermer le service, par exemple. Maintenant, on a des besoins ou telle personne qui part à la retraite ou en congé maternité ou autre, dans tel autre service, voyons si on peut vous proposer l'emploi qui va bien dans tel autre service. Ça, c'est la théorie. Après, dans la pratique, quand ils ont envie de licencier parce qu'ils ont envie d'économiser, bien évidemment, ils ne vont pas...
Chercher une alternative.
Ouais, voilà. Ou alors, ils vont le faire, mais bon, histoire d'eux, ah ben non, on n'a rien, désolé. Un peu, d'ailleurs, comme mon entreprise avait fait, parce que si c'était vraiment creusé la tête, ils auraient pu trouver des postes alternatifs, sachant que quelques mois après, il y a un autre service qui s'est ouvert avec d'autres perspectives, etc. Enfin bon. Sans rentrer dans le détail, il y a quand même souvent beaucoup de mauvaise foi et non, on peut rien faire, désolé, mais bon, si on voulait vraiment, il y a beaucoup de cas où où on pourrait. Bon, en tout cas, pour revenir sur l'aspect, on va dire, légal, en gros, une entreprise peut licencier économiquement, dans quelques cas, c'est, bon, d'abord, si elle est en cessation d'activité, bon, là, ça paraît assez évident. Effectivement, là, c'est difficile de contester une entreprise qui met la clé sous la porte pour arrêter définitivement son activité. Bon, là, pour le coup, c'est assez difficile de se battre là-dessus. Ensuite, ce qui peut se passer, c'est une réorganisation de l'entreprise nécessaire à sa compétitivité. Alors là, déjà, c'est plus flou, on est plus dans les cas dont on a parlé, c'est... qu'est-ce que c'est nécessaire à sa compétitivité? Est-ce que ça veut dire faire plus de bénéfices? Parce que finalement,
C'est super subjectif en fait.
Ouais, ça, ce genre de formulation, je trouve ça un peu traître parce que on peut l'interpréter plus ou moins comme on veut et en fait, faire ce qu'on veut.
Ça veut dire que c'est à l'appréciation du juge dans le cas du.
Ouais, en gros. Du jugement. en résumé, c'est un peu ça, malheureusement. Et ensuite, il y a comme cause, on va dire. Réel, tout ce qui va être suppression ou transformation d'emploi suite à des mutations technologiques ou économiques. Par exemple, je sais pas, telle entreprise passe sur tout autre support. Donc, alors, je reviens encore une fois sur l'exemple de mon entreprise, c'est juste que c'est celui que je connais le mieux. Pas forcément le meilleur, c'est juste celui que je connais le mieux. C'est vrai qu'à un moment, si on passe par exemple à une époque d'un suite des supports papier au support internet ou numérique sous CD, DVD, internet, tout ce qu'on veut, il peut y avoir voilà, une mutation technologique qui fait que les gens qui étaient aptes à travailler sur papier, dans tout ce qui est édition, presse ou ce qu'on veut, si l'entreprise tourne son activité vers du 100% numérique, les compétences nécessaires vont être différentes. Donc, effectivement, dans ces cas-là, l'entreprise peut dire « Ah bah, on n'a plus besoin de gens qui font, je sais pas, de la maquette ou maquette papier et autres, et on va plutôt avoir besoin de développeurs informatiques, de gens qui savent faire du référencement web, etc. etc. » Et dernière chose, donc, qui est plus ou moins liée, c'est quand un salarié refuse de voir son contrat de travail modifié s'il y a de nécessaires mutations technologiques et économiques. Voilà, si on lui dit, bah écoute, voilà, l'entreprise change de cap, elle va faire ça, on va changer ton contrat de travail pour s'adapter, que le salarié refuse, à tort ou à raison, hein, peu importe, il peut être amené à être licencié économiquement. Donc, voilà globalement ce qu'on peut dire sur le licenciement économique. Alors après, évidemment, c'est très très vaste, il y a énormément de situations différentes qui peuvent intervenir. C'est pas forcément toujours évident de lutter dans ce genre de circonstances, même quand c'est des plans, comment dire, collectifs. Ça arrive souvent dans le cas de licenciement économique, c'est souvent collectif, des services entiers qui se font virer, des usines entières qui ferment. Bon, on l'a vu, je pense, tous dans le cas de la métallurgie à Florange ou de PSA Aulnay, effectivement. Et...
Ou dans l'informatique récemment chez Arcos et chez Texas Instruments aussi.
Ouais. Ouais, c'est vrai, bon. Et puis dans plein, enfin, malheureusement, dans tellement d'entreprises qu'on ne peut pas toutes les citer. Mais c'est vrai que ça se produit beaucoup. C'est, voilà, soit, alors, difficultés financières réelles ou, entre guillemets, imaginaires. Voilà, on vire tel service, on le délocalise complètement dans tel pays ou on le sous-traite. Ça peut être toujours, ça peut être gardé en France ou, enfin, dans le pays, en tout cas, local. Mais ça peut être sous-traité à telle entreprise. Pour que ce soit moins cher, pour que ce soit plus flexible, pour que ce soit tout ce qu'on veut. Donc voilà, on va dire que c'est la grande mode du moment. La grande mode des périodes de crise. Donc voilà, globalement, pour le licenciement économique, bon, il y aurait deux, trois autres de précisions à faire sur les obligations de l'employeur, obligation de définir des critères d'ordre de licenciement. Normalement, on ne peut pas virer n'importe qui comme ça en cas d'économique. Il y a une priorité, en principe, à l'ancienneté, par exemple, qui peut jouer, c'est-à-dire qu'on va d'abord normalement licencier les employés les plus jeunes dans l'entreprise avant de licencier les plus anciens. Enfin, c'est pas une obligation, mais en tout cas, l'employeur est censé définir des critères.
Oui, justement, donc en parlant de critères, c'est l'employeur qui définit ces critères-là. Donc, généralement, comment ça se passe? C'est donc on met un point pour ceux qui ont. Mettons 0,25 points, fois le nombre d'années d'ancienneté, par exemple, donc pour pour l'ancienneté et pour que l'ancienneté ait plus de poids, on peut avoir un ou deux points pour l'âge donc de la personne. Mettons, si elle a 45 ans, elle a un point, 50 ans, elle a deux points en plus. Pour le nombre d'enfants, même chose, donc un enfant, un point, etc. Et là où c'est vicieux, c'est que y a en plus les critères dits de qualité professionnelle. Donc là-dedans, on peut avoir l'adaptabilité, on pourrait avoir...
la soumission.
Je sais pas, oui, exactement. Enfin, tout un tas de choses. Et donc, admettons, on va mettre l'adaptabilité de 0 à 3 points, on va mettre autre chose encore de 0 à 3 points. Et donc, du coup... dans le poids de la balance entre l'ancienneté, le nombre d'enfants, etc., et les qualités professionnelles qui sont complètement subjectives et définies par le patron, en gros, eh ben, ils peuvent virer tout le monde.
Ouais, mais, enfin, faut ce qu'ils veulent. Quoi.
Les personnes qui veulent, voilà.
Mais quand tu dis c'est défini par le patron, c'est défini par le comité d'entreprise, c'est une négociation ou c'est juste les dirigeants ?
Alors, c'est défini par la direction, hein, et. Dans le cas d'un licenciement économique, le CE n'a rien à dire là-dessus. Hein, voilà, c'est... Par contre, dans le cas d'un plan de sauvegarde de l'emploi, comme on appelle ça, hein, donc un plan de licenciement, et ben, là, le CE a son mot à dire dessus, c'est-à-dire à donner son avis favorable ou défavorable. Voilà. Hein, donc, c'est pas grand-chose.
Avis consultatif.
Au final, ça ne sert pas grand-chose. Voilà.
Oui, c'est histoire de dire, on consulte les employés, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, et si vous n'êtes pas d'accord, c'est pareil, grosso modo.
C'est ça, voilà.
Bon. Malheureusement, on s'en doutait. Voilà, alors sinon, sur les autres motifs existants, donc j'ai mentionné tout à l'heure, une pause d'abord, petite coupure, ouais, avant d'enchaîner.
Allez, une petite coupure.
Une petite coupure musicale, et puis on passe aux autres motifs après.
La vie s'écoule, la vie s'enfuit, les jours défilent au pas de l'ennui. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. Le travail tue, le travail paie, le temps s'achète au supermarché. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt. Les yeux faits pour l'amour d'aimer sont le reflet d'un monde d'objets, sans rêve et sans réalité. Aux images nous sommes condamnés, sans rêve et sans réalité. Aux images nous sommes condamnés. Les fusillés, les affamés viennent vers nous du fond du passé. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. We'll be right back. curé, ni de marchand, de policier. Au vent qui sème la tempête, se récoltent les jours de fête. Au vent qui sème la tempête, se récoltent les jours de fête. Les fusils sur nous dirigés, contre nos chefs vont se retourner.
Voilà, vous venez d'écouter donc René Binamé, La vie c'est cool.
Un groupe de chansonnettes punk belge, c'est ça ?
C'est ça.
Donc ce soir, c'est l'émission Le Monde Merveilleux du Travail, animée par le syndicat de l'industrie informatique de la CNT, et le thème est le licenciement.
Donc on reprend sur ce thème assez joyeux, là où on s'était arrêté, à savoir les motifs de licenciement. Donc on a parlé tout à l'heure principalement du licenciement économique. On va voir qu'il y a deux autres possibilités, donc le licenciement personnel disciplinaire ou personnel non disciplinaire. Alors globalement, bon, disciplinaire, c'est assez simple à comprendre, c'est tout ce qui va être des fautes imputables au salarié, c'est-à-dire le salarié qui, je sais pas, prenons des caricatures, insulte son patron, qui sabote quelque chose sur son lieu de travail, ou tout simplement qui fait mal quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Qu'est-ce que j'avais noté comme exemple ? J'avais noté des retards répétés et non justifiés. Donc, par exemple, je sais pas, on doit commencer à 8h30, puis on se pointe pendant une semaine à 11h, et puis on dit rien, on justifie rien. Éventuellement, ça peut être ça. Ça peut être tout ce qui va être faute professionnelle. Donc, bon, là, ça peut englober un peu tout et rien. Mais la faute professionnelle en fait partie. Tout ce qui va être indiscipline et insubordination, donc refus de... d'obtempérer, d'obéir aux consignes qui sont données, etc., etc. Donc c'est là-dedans qu'on va trouver tout ce qui va être faute, allant de faute légère à faute lourde, en passant par faute grave. Donc ça, c'est subjectif. Oui, dans une certaine mesure, c'est subjectif. Hein. Qu'est-ce qui est une faute légère, qu'est-ce qui est une faute grave, etc. Une faute légère n'est pas censée pouvoir donner lieu à licenciement, bien sûr. Hein. Tout le monde fait des erreurs dans son travail au quotidien. Voilà, on peut avoir éventuellement un blâme, on peut avoir éventuellement, à la limite, une mise à pied disciplinaire pour une faute qui va être jugée suffisamment grave. Après, les fautes qui justifient un licenciement, il faut quand même aller assez loin pour que ce soit reconnu, en tout cas par les prud'hommes. Notamment la faute lourde, qui est la plus importante de toutes, elle est très très rarement reconnue. Il faut vraiment avoir fait quelque chose d'exceptionnellement... exceptionnellement grave, avoir saboté un site, je ne sais pas, j'arrive même pas à imaginer ce que ça peut être, mais quelque chose en tout cas de vraiment très important. Bon, après reste la faute grave qui peut être imputable au salarié. Ce qu'il faut savoir dans le cas de faute grave et lourde, on en reparlera sans doute plus loin, c'est que c'est que ça empêche d'avoir certains droits, notamment le droit à préavis, droit aux indemnités de licenciement, etc. Donc il y a des choses qu'on peut se voir refuser pour ces motifs-là. Mais encore une fois, c'est pas si évident d'être renvoyé pour des fautes graves et lourdes. C'est difficile en tout cas pour un employeur d'invoquer ce genre de fautes. Ensuite, dernier motif de licenciement, donc le motif personnel non disciplinaire. Donc là, c'est personnel au sens où ça a aussi rapport à la personne du salarié, mais c'est pas imputable à lui. C'est-à-dire que C'est un peu dit comme ça, c'est pas forcément très clair. Ça veut dire que c'est de sa faute, mais qu'il l'a pas fait volontairement, en quelque sorte. C'est-à-dire, par exemple, ça va être tout ce qui est insuffisance professionnelle. Voilà, on vous a demandé d'accomplir telle tâche, et manifestement, vous n'êtes pas capable de la remplir. Vous n'avez pas les compétences, vous n'avez pas la formation requise, vous n'avez pas, je sais pas, celui qui s'est fait engager en mettant sur son CV 10 ans d'expérience dans... je sais pas, le PHP, et puis il a jamais fait de PHP. Quand il arrive, on se rend compte que il sait pas du tout faire de PHP dans son PHP. Donc c'est un langage de programmation web pour ceux qui ne connaissent pas. On va éviter de rentrer dans, la...
dans le
les barbaries, c'est ça. Donc admettons, voilà, j'ai mis sur mon CV que je sais faire ça, et puis au bout de X mois, on se rend compte que en me demandant de faire, je sais pas le faire. Bon voilà, insuffisance professionnelle par exemple. Voilà, c'est des choses qui peuvent être reprochées, alors sachant que c'est pareil, c'est aussi, enfin, ça peut être beaucoup de l'interprétation. Je prends mon cas personnel, puisqu'on est en plein dedans, c'est ce qu'on me reproche actuellement, c'est ça, ça rentre dans le non-disciplinaire, c'est vous ne remplissez pas correctement les missions qui vous sont normalement confiées, qui vous sont imputables, vous ne faites pas bien votre boulot, en gros. Et ça... au prud'homme, ça risque de leur coûter très cher. Parce que quand on a les preuves qu'on fait bien son boulot, et surtout quand l'employeur n'a pas de preuves qu'on le fait mal, ou des preuves trop insignifiantes, en général, il est mal au prud'homme. voilà comment on peut résumer ça. Donc voilà pour les trois grands motifs, hein, économique, personnel disciplinaire et personnel non disciplinaire. Forcément, si on se fait licencier, ça doit rentrer dans une de ces cases. L'employeur doit invoquer un de ces motifs, sachant que si vous êtes concerné, il faut bien vérifier les droits, les devoirs de l'employeur, parce que pour chaque motif, ça peut varier. Il va avoir des obligations différentes selon qu'il fait l'un ou l'autre. Donc il faut bien se renseigner, parce que dès qu'il y a une faute de procédure, tout de suite, on peut attaquer au prud'homme là-dessus, on peut avoir des indemnités, ça peut être une faille.
Donc les devoirs de l'employeur qui changent, j'imagine par exemple pour le reclassement, si tu es dans la troisième catégorie, licenciement personnel non disciplinaire, dans ce cas, peut-être il peut pas te proposer un motif de reclassement si tu es incompétent. C'est ce genre de différence, les devoirs de l'employeur.
Oui, tout à fait, exactement. Et économique, c'est vrai, on l'a dit tout à l'heure, il y a une obligation de tentative de reclassement, de proposition d'autre chose, qui n'est pas le cas dans les motifs personnels. Okay. Personnel, c'est voilà, vous avez fait une connerie, dehors, et on ne cherche pas que la connerie d'ailleurs soit réelle ou imaginaire, hein, mais dans le principe en tout cas c'est ça. Et bon, après il y a 2-3 autres, on verra aussi tout à l'heure un peu plus loin, 2-3 autres particularités, comme je disais tout à l'heure pour les fautes, on peut ne pas avoir notre préavis, on peut ne pas avoir d'indemnité, etc. Alors ensuite, dernier point pour boucler sur ces différents types de licenciements, il y a une notion qui est extrêmement importante à comprendre et qui est transversale à tous les types de licenciements, donc les trois types, c'est la notion de cause réelle et sérieuse. Alors, la cause réelle et sérieuse, c'est, on va dire, la clé de tout motif de licenciement. Un employeur, quel que soit le motif qu'il invoque, il doit avoir une cause réelle et sérieuse. C'est-à-dire, il peut pas dire juste « j'aime pas votre tête, allez je vous colle un licenciement pour personnel disciplinaire, pardon, et puis dehors ». C'est s'il dit faute professionnelle, par exemple, faute grave, admettons, il faut qu'il puisse justifier, dire quelle est la faute, quand est-ce qu'elle a eu lieu, justifier est-ce que c'est bien monsieur ou madame un tel qui est le responsable de cette faute. Il peut pas inventer n'importe quoi. Ou alors, quand il le fait, et ça arrive malheureusement assez souvent, et si on porte au prud'homme, forcément, il va se prendre des indemnités et une amende parce que la cause n'aura pas été réelle et sérieuse. Donc en gros, une cause, pour qu'elle soit dite réelle et sérieuse, donc ça c'est le code du travail qui le précise, la cause, il faut qu'elle soit exacte, c'est-à-dire qu'il ne faut pas utiliser une cause, mais... alors que la cause réelle est une autre. Par exemple, je trouve une faute minime dans le travail d'un tel, et puis j'utilise cette faute, alors qu'en fait le problème c'est que c'est un syndicaliste, c'est qu'il est délégué du personnel et qu'il est un peu chiant pour la direction, ou je sais pas, c'est une dame et elle est enceinte par exemple. Et, bref, voilà. Si on arrive à prouver que on est victime d'une discrimination ou de n'importe quel autre aspect de la relation avec l'employeur qui est le vrai motif et qui invoque autre chose, dans ce cas, on peut dire que la cause n'est pas réelle et sérieuse. De même, il faut qu'elle soit objective et exacte, et existante, pardon, ce qui veut dire qu'elle doit pouvoir être vérifiable. Si l'employeur dit « Ah ben machin a fait une faute » et qu'il apporte aucune preuve, aucun élément qu'il y a eu un préjudice pour la société, que c'est bien tel qui a fait la faute, etc., a priori, c'est pas recevable. Il faut quand même qu'il soit en mesure de prouver ce qu'il avance.
Donc en fait, c'est comme en termes de droit classique, le défendeur est supposé innocent, quoi. C'est à l'attaquant de fournir des preuves de la culpabilité du défendeur.
C'est un peu ça l'idée, ouais. C'est un peu ça. C'est par défaut, si la personne conteste le motif de son licenciement, il faut que l'employeur soit capable de
fournisse dire... Fournisse des preuves vérifiables.
Voilà. Si, j'ai raison, parce que... Et s'il peut rien dire, en général, il se prend les prud'hommes dans le pif. Et d'ailleurs, la cause réelle et sérieuse, c'est justement ce qu'on conteste le plus, enfin le plus, ce qui est en tout cas le plus susceptible d'être attaqué au prud'homme, c'est de dire voilà, je suis licencié pour telle cause, mais ce n'est pas une cause réelle et sérieuse. Et si on arrive à prouver effectivement la nullité de cette cause, là on a le droit, en général, au maximum d'indemnité, au maximum de dédommagement. Et d'ailleurs, on verra qu'au prud'homme, c'est ce qui est le plus souvent... les cas qui sont le plus souvent portés au prud'homme, c'est des cas de contrats rompus abusivement et que les salariés dénoncent. Voilà. Donc cette notion-là, évidemment, très importante. On verra tout à l'heure que ça peut aller jusqu'à... Enfin, au minimum, pas jusqu'à, c'est au minimum 6 mois de salaire d'indemnité pour le salarié qui arrive à prouver la nullité de la cause. Et ça peut aller jusqu'à 3 ans d'indemnité. Donc, maintenant, un petit tour sur la procédure de licenciement. Après une petite pause musicale, comme le suggère Colin, a raison.
Tant pis si t'es dans la débine, t'avais qu'à être dans la mafia. Un coup de sourdine, dessous de combine, et t'avais ton rata. Tandis que toi tu joues à l'homme, tu me l'as fait au cousu d'or. Tu n'es qu'une pomme, car les vrais hommes, ça fait des petits efforts. Mais puis la mafia hardine, t'as une bonne place à l'usine. C'est pas que t'aimes la mandoline, mais la mafia elle, elle aime ça. Pour mieux beurrer tes tartines, émerdailler ta poitrine, faut savoir jouer de la chopine. Et la mafia elle, elle aime ça. Tant pis si t'es au bas de l'affiche, t'avais qu'à être dans la mafia. Un petit pourriche et te v'la riche avec un nom comme ça. Tandis que toi tu prends des pauses, t'es même pas dans le bottin. Ça indispose, mais c'est à cause de ça que t'es dans le pétrin. Mais si la mafia se ramène, t'es ni José ni Carmen. Quand tu chantes, c'est la bohème. Et la mafia, elle aime pas ça. Tu vas traînant tes rengaines le long de la longue scène, en crachant sur ceux qui gênent. Et la mafia, elle aime pas ça. Tant pis si tu meurs dans la dèche, faut mieux crever dans la mafia. Avec une crèche, dans une calèche, et des croque-muches en soie. Tandis que toi tu pars en somme, tu pars comme t'es jamais venu. Un petit coup d'homme, si t'es un homme, personne n'en a rien su. Regardez-moi le mec qui se taille, tiré par deux chevaux de bataille, suivi par un chien qui braille. À son amour, à son amour. Et la mafia qui se cavale, car pour louer sous la dalle, c'est pas comme dans la fringale. C'est jamais le jour, c'est jamais le jour. Si tu chantes ma chansonnette pour faire ton métier de vedette, t'as qu'à barrer ce qui t'embête avec des X, avec des X. Ou bien chanter en embiche les conneries qui plaisent aux riches, alors tu seras sur l'affiche à Cocatrix, à Cocatrix. Hey.
Voilà, vous venez d'écouter donc Erwan, La Mafia, bien sûr, vous avez reconnu Léo Ferré. Allez, à vous.
Donc la suite de l'émission du syndicat de l'industrie informatique. Ce soir, le thème est le licenciement. On a déjà parlé des trois procédures, des trois types de licenciement. Et maintenant, on va parler de la procédure à suivre.
Oui, tout à fait. Donc il faut savoir qu'il y a une procédure très encadrée que l'employeur est tenu de suivre, quel que soit d'ailleurs le type de licenciement. On a parlé de économique, de personnel disciplinaire, non disciplinaire. Dans tous les cas, la procédure est la même et l'employeur y est tenu. Donc là, sur cette procédure, il y a souvent des ouvertures ou des failles, on va dire, qui permettent d'attaquer au prud'homme, disant, voilà, n'a pas respecté la procédure parce que ce point-là, etc. Donc c'est bien important de vérifier, est-ce que tout a été respecté.
Donc là, alors, c'est comme quand tu attaques sur un vice, c'est un vice de procédure, en fait, un vice de forme.
C'est ça, exactement. Ouais. C'est vice de forme, donc c'est pour ça que c'est important de bien comprendre et de bien connaître surtout tout ce droit-là pour savoir tout de suite si il y a un vice et si éventuellement ça pourra être un angle d'attaque au prud'homme. Donc la procédure globalement, alors il y a quatre grandes étapes, on va dire, quand on se fait licencier. La première étape, c'est la convocation à l'entretien préalable. Donc on peut pas se faire, ça n'existe pas, se faire licencier à l'américaine comme dans les séries où...
Vous êtes viré.
Voilà, c'est ça. Ça n'existe pas, en tout cas pas en France. Aux États-Unis, ça existe sans doute, mais si on se prend un truc, vous êtes viré, tu prends ton carton et tu rentres chez toi, vous pouvez rester tranquillement à votre poste de travail et continuer. Légalement parlant, juridiquement parlant, voilà, il n'y a rien, quoi. C'est, vous pouvez vous détendre, il n'y a pas de problème. Pour être licencié, obligatoirement, il faut être dans un premier temps convoqué à un entretien préalable, et suite à cet entretien préalable, s'il est effectué, mais en tout cas suite à la date de cet entretien préalable, on peut recevoir, sous certaines conditions, une lettre de licenciement. Et à ce moment-là uniquement, on sera effectivement licencié. Et quand le préavis sera terminé, l'employeur aura obligation de remettre certains documents. Voilà, il faut que toute cette procédure soit impérativement respectée.
Et la convocation à l'entretien, c'est notifié dans l'entreprise ou c'est par une lettre commandée ?
Alors, tu as les deux possibilités. Soit l'entrepreneur te prend dans son bureau et te donne la lettre en main propre et tu dois signer une décharge, comme quoi tu as bien reçu la lettre. Soit on te l'envoie à ton domicile en courrier recommandé.
Okay.
Forcément l'un ou l'autre. Si on te le dit juste à l'oral ou si on te remet une lettre sans rien te faire signer ou autre,
c'est pas valide.
Aucune valeur. Pareil. Donc voilà, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a vraiment plein d'aspects qu'il faut bien vérifier parce qu'il y a beaucoup de manières d'avoir des vices de procédure. Donc il y a cette convocation à l'entretien, sachant qu'on ne peut pas être convoqué moins de 5 jours ouvrables après l'envoi de la lettre. Donc ça peut pas être vous êtes convoqué le 2 pour un entretien le 3. Ça n'existe pas. Ou alors c'est pareil, c'est non valide. Il faut qu'il y ait au moins un délai. Ce délai, il est prévu pour que le salarié puisse cogiter un minimum, se défendre, préparer son entretien. Après, il y a l'entretien. Donc là, on rencontre donc, soit directement l'employeur, soit son représentant, donc DRH, directeur, machin, etc. Une personne en tout cas compétente pour recevoir. Et là, il y a l'entretien préalable. Il faut savoir que le salarié n'est pas obligé de s'y rendre. Maintenant, c'est conseillé. On va dire que le salarié n'a pas grand-chose à perdre à y aller. Ce serait même plutôt l'inverse. Il aurait plutôt un désintérêt à ne pas y aller. Mieux vaut savoir. C'est là qu'on va apprendre quel est le motif ou les motifs de licenciement. Est-ce que c'est économique? Est-ce que c'est disciplinaire? Pour quelle faute? Pour ceci? Pour cela? Et là, ce qui est important de retenir pour l'entretien préalable, c'est que l'employeur n'est pas censé faire ça comme une formalité. C'est encore une fois, c'est le code du travail qui le dit. Il est censé, à ce stade, rechercher une solution avec l'employé. Donc à ce stade, on n'est pas licencié. On est toujours dans l'entreprise, il n'y a rien. Ça peut très bien s'arrêter ici. Et l'employeur est censé mener l'entretien en cherchant une solution. C'est-à-dire, voilà, vous avez fait telle faute, ou vous êtes comme ci, comme ça, ou il y a des difficultés financières. Je vous le dis, on envisage votre licenciement, mais recherchons ensemble une solution pour éviter ça. Et donc c'est censé amener une discussion, l'employé est censé se défendre, le salarié plutôt est censé se défendre par rapport à ce qu'on lui reproche.
Et ça c'est écrit dans le code du travail.
Ah oui, oui, ça, tout à fait.
Donc c'est quelque chose que l'employé peut invoquer pour que la négociation ait vraiment lieu pendant l'entretien.
Oui, ouais, tout à fait. Normalement, si l'employeur, pendant l'entretien, il vous dit « Ah bonjour, voilà, vous êtes licencié pour ça, et puis merci, au revoir », ça, voilà, en principe, on peut arriver au prud'homme en disant « Je ne suis pas d'accord, la procédure n'a pas été respectée, l'entretien préalable ne s'est pas passé du tout comme c'est prévu ». Après... Encore une fois, c'est une question de preuve, de...
Ouais. Mais justement, en termes de preuve, est-ce que tu peux enregistrer cet entretien ?
Alors, l'enregistrer, c'est une bonne question que je m'étais posée. D'ailleurs, je n'ai pas encore eu la réponse. Donc, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'étais arrivé à l'entretien en disant... Parce qu'à l'époque, je n'avais pas la réponse. Donc, je ne savais pas si je pouvais l'imposer ou pas. Donc, j'étais arrivé à l'entretien avec un... Comment ça s'appelle ? Un dictaphone. En disant, voilà, je voudrais enregistrer l'entretien. Maintenant, en gros, je donne le choix... Bon, évidemment, dans ces cas-là, en général, c'est plutôt non, et là, ça a été non. Parce que, pauvre chéri, ça le mettait mal à l'aise, tout ça, il ne s'était pas préparé psychologiquement, etc. En revanche, ce qui est important, c'est qu'on peut être assisté de quelqu'un qui fait partie de l'entreprise. Donc, ou, s'il n'y a pas de représentant du personnel, d'une personne qui est inscrite sur une liste qui est dressée par la préfecture, etc. Ça, normalement, ça doit être d'ailleurs spécifié dans la lettre de convocation à l'entretien, obligatoirement. C'est une des mentions obligatoires de la convocation. Et donc, c'est vraiment important, quand on a la possibilité, de se faire assister par quelqu'un. Alors, ça peut être un délégué du personnel, ça peut être un délégué syndical, mais ça peut être aussi n'importe qui de l'entreprise. Hein. Il n'est pas obligé, ou elle n'est pas obligée, d'avoir des fonctions particulières. Elle peut simplement accompagner. Elle peut poser des questions, défendre le salarié ou non, peu importe. Mais elle peut aussi, moi c'est ce que j'avais demandé à la déléguée du personnel, soit là, en tant que témoin, prends des notes et fais un rapport sur ce qui s'est dit. Point. Pas besoin de me défendre ou de pas me défendre, machin, juste, soit là, fais un rapport. Ça permet d'avoir déjà, on va dire, une tierce partie, qui peut aussi permettre que l'entretien s'envenime pas et parte pas dans tous les sens.
Faire un peu tampon.
Faire un peu tampon, exactement. Et avoir quelqu'un qui, voilà, va le plus objectivement possible retranscrire... l'échange, et ça peut faire office de preuve après, par la suite, pour dire l'entretien s'est passé normalement ou pas normalement. Voilà, donc ça c'est important de bien maîtriser cette partie-là et d'être assisté si possible, et évidemment si possible par quelqu'un qui est de votre côté. S'il y a un délégué syndical, s'il y a quelqu'un comme ça dans l'entreprise, bah, mieux vaut foncer plutôt que d'aller sélectionner quelqu'un qui va être du côté du patron ou qui va pas savoir et qui va s'en foutre. Voilà, mais bon, ça c'est assez évident. Bien sûr, on peut souligner que c'est pas forcément facile de demander, même à un copain au travail, est-ce que tu veux bien venir avec moi, parce que bon, pour cette personne, ça peut la mettre mal à l'aise vis-à-vis de l'employeur.
C'est une forme de soutien d'opposition au patron, c'est sûr.
C'est ça, ouais. Donc ça peut être mal vu. Donc bon, je dirais qu'il ne faut pas forcément tenir rigueur aux collègues qui refuseraient. Et c'est pour ça que des fois, le délégué du personnel ou le délégué syndical, c'est pratique, parce qu'on peut invoquer sa fonction et pas mettre la personne mal à l'aise. Donc ensuite, après ça, donc après cet entretien préalable, il faut savoir que là, l'employeur n'a pas le droit, ou alors c'est pareil, vice de procédure, de signifier le licenciement immédiatement ou de remettre la lettre de licenciement tout de suite. Il y a un délai légal minimum qui est fonction du motif reproché. Par exemple, pour un motif personnel, que ce soit disciplinaire ou non, c'est 2 jours ouvrables. Donc il ne peut pas envoyer la lettre de licenciement définitive avant ce délai-là. Si vous l'envoie le lendemain, c'est fichu. Si vous l'envoie dans la journée, c'est fichu. Et après, il y a d'autres délais. Par exemple, 7 jours ouvrables pour un licenciement économique d'un non-cadre. 7 jours ouvrables également pour un licenciement collectif économique de cadre. Et 15 jours ouvrables en cas de licenciement individuel économique d'un cadre. Voilà. Bon, il y a plusieurs délais. Donc en fonction de son statut, cadre, pas cadre, en fonction du type de licenciement, il faut se renseigner pour savoir quel est le délai. Et ensuite, dans la lettre qu'on va recevoir, alors en priori en courrier recommandé, accusé de réception à son domicile, toujours, là va y avoir, des mentions obligatoires. Donc il y a toute une liste, je ne vais pas forcément la donner ici parce qu'elle se trouve facilement, mais sachez qu'il y a des mentions obligatoires, donc vérifiez bien, est-ce que toutes les mentions sont là, notamment le ou les motifs doivent être clairement listés, ce genre de choses. Et théoriquement, bon là c'est pas dans le code du travail, c'est plutôt dans tout ce qui est jurisprudence, l'employeur ne peut pas invoquer de motifs qui n'auraient pas été invoqués à l'entretien préalable. Il ne peut pas vous dire à l'entretien préalable, en caricaturant, vous êtes viré pour motif économique, Et puis dans la lettre, ah oui, vous êtes viré pour motif économique. Et puis on vous a choisi parce que vous avez fait telle faute, telle date, machin. Faut qu'on reste.
Il faut que ce soit cohérent.
Théorie toujours. Donc il y a quelques autres mentions obligatoires, notamment le droit au DIF. On va revenir un peu dessus tout à l'heure. Et sachant que ce qui est important, voilà, c'est qu'à ce stade-là, il y a effectivement licenciement. Tout à l'heure, je disais, il y a la lettre de convocation à l'entretien préalable. Là, il n'y a pas licenciement. Il y a l'entretien préalable, toujours pas licenciement. Ça peut s'arrêter là. L'employeur peut décider, bah, bon, finalement, je ne licencie pas, et termine. À partir du moment où on reçoit la lettre de notification de licenciement, là, on est licencié. Et le préavis commence au jour de première présentation du courrier recommandé à son domicile. Et là, c'est parti. Là, on est vraiment licencié. Tel votre serviteur de ce soir. Voilà. Et donc, pour finir, dernière étape, bon, il y a le préavis, bien sûr, hein, qui est d'une durée variable, on va en parler un peu tout à l'heure, suivant, pareil, le statut, etc. Et à la fin de ce préavis, on doit se voir remettre des documents par l'employeur. Là, c'est pareil, il n'a pas le choix, quoi qu'il arrive. Il doit obligatoirement remettre une attestation Pôle emploi. Donc ça, c'est ce qui va permettre d'aller à Pôle emploi en disant « je suis sans travail » et de pouvoir commencer à s'inscrire et à recevoir les allocations. Il doit remettre aussi le solde de tout compte, c'est-à-dire la somme d'argent qu'il nous doit, le salaire, enfin, prorata du nombre de jours, etc. Éventuellement les primes, s'il y en a, et tout ce qui va être congé payé, enfin, indemnité de congé payé. Donc les congés payés, soit on les prend pendant le préavis, soit ils nous les payent. Voilà, c'est dans le solde de tout compte si on ne les a pas pris pendant le préavis. Et enfin, le certificat de travail. Donc là, c'est pareil, il y a des mentions obligatoires, il y a des mentions interdites. Ça, c'est peut-être plus important encore, parce que bon, les mentions obligatoires, globalement, c'est nom, prénom du salarié, date d'entrée, date de sortie. Bon, c'est des choses assez factuelles et qui n'ont que comme seul intérêt de prouver qu'on a bien travaillé dans telle entreprise, à tel poste, telle date, à telle date. Bon. Ce qui est toujours important, évidemment, il faut le demander si on ne le donne pas. Mais ce qui est important, c'est les mentions interdites. Par exemple, l'employeur ne peut pas dire je vous ai licencié parce que vous avez fait telle faute. Ça, il n'a pas le droit de le mentionner. C'est vous avez travaillé dans notre entreprise de temps à temps, vous êtes monsieur un tel ou madame un tel, blablabla. Mais il ne doit pas donner de choses qui peuvent nuire aux salariés.
Et ce certificat, il sert pour d'autres administrations plus tard ou...
Il peut servir pour justifier, j'imagine aussi, de tout ce qui va être droit à la retraite, etc., cotisation à la retraite, okay. Ou éventuellement pour prouver, oui, à un employeur éventuel, oui, j'ai bien travaillé dans telle entreprise de telle date à telle date, pour prouver qu'on ne bidonne pas sur son CV ou ce genre de choses. Si on ne l'a pas, on peut être embêté. Hein, si on nous dit, bah, prouvez-moi que vous avez travaillé, on a son contrat de travail, d'accord, mais...
Ouais, t'as les fiches de paye aussi, normalement.
bon, on n'est pas complètement démunis, mais c'est quand même mieux d'avoir ce genre de document. Et pour finir sur le solde de tout compte, je reviens donc sur le document d'avant. Le solde de tout compte, on n'est pas obligé de le signer. Normalement, l'employeur va demander à ce qu'on le signe. On n'est pas obligé de le signer. Si on ne le signe pas, l'employeur est malgré tout obligé, évidemment, de payer ce qu'il doit nous payer. Et il est plutôt recommandé, dans la mesure du possible, de ne jamais signer le solde de tout compte pour un délai de... Enfin, une question de délai, en fait, de contestation de ce solde. En principe, si on le signe, on a 6 mois pour le contester. Par exemple, on se rend compte qu'il n'a pas payé tous les... Enfin, pas les RTT, pardon, les heures sup qu'il aurait dû. On a 6 mois pour contester ça. Si on ne signe pas... On a 5 ans, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. On a jusqu'à 5 ans pour contester le solde de tout compte. Donc c'est plus confortable, sachant qu'on ne perd rien. Il n'y a pas de danger à ne pas le signer. Donc, okay. Mieux vaut plutôt ne pas le signer.
Mais dans le solde de tout compte, est-ce que tu as aussi les mois de préavis qui te sont payés en avance ou...
Non. C'est
juste que à la lettre de licenciement.
Compte, c'est le salaire, en gros, pour résumer, le salaire qu'on te doit. Après, le préavis, c'est encore autre chose. Donc soit tu le fais, donc, par exemple disons tu as un mois de préavis, du 1 au 30, tu fais ton préavis, point. Deuxième possibilité, l'employeur te dit je veux pas que vous effectuiez votre préavis, donc là il te file une somme d'argent correspondant à un mois de salaire, du 1 au 30, qui correspond à ton préavis, mais c'est deux choses différentes, il est obligé de te donner à la fois la somme d'argent qui correspond à ton préavis qui ne te fait pas faire, comme si tu bossais normalement, et en parallèle, ils te donnent
le solde de tout compte.
Le solde de tout compte. Okay. Voilà, c'est sûr, faut pas se faire embobiner là-dessus. Il y a pas mal d'employeurs qui, des fois, cherchent des combines. Ouais, je vous paye les heures sup et puis je vous paye pas ça, ou je vous fais pas faire votre préavis, du coup je vous paye pas, machin bidule. Ça n'existe pas. Hein. Faut vraiment qu'ils payent tout ce qu'ils doivent payer.
Ouais, le préavis fait ou pas fait, il doit être payé.
Quoi. Ouais, exactement. Fait ou pas fait, il doit être payé. On verra après que l'employeur peut imposer le fait qu'il ne soit pas fait, si on veut. C'est-à-dire, il peut dire, je vous dispense de votre préavis. Le salarié a pas trop son mot à dire. Bon, d'un autre côté, c'est plutôt gagnant pour le salarié quand on le dispense de préavis. Mais dispenser de préavis, ça dispense pas de payer le préavis. Le préavis doit être payé, quoi qu'il arrive. Il faut surtout pas se faire avoir là-dessus. Est-ce qu'on passe à une petite pause musicale, voilà, le temps de se rafraîchir les idées avant d'entamer tout ce qui va nous aider à nous défendre dans ces cas-là.
Tout à fait, et je vais quand même rappeler le numéro du studio parce qu'on est quand même en direct là. Donc si vous voulez nous appeler, vous avez quelque chose d'intéressant à dire, mais uniquement pendant les pauses musicales, hein, parce qu'on n'est pas beaucoup. Donc le numéro, c'est le 01 43 71 89 40.
Donc ce soir, l'émission Le Monde Merveille du Travail, animée par le syndicat de l'industrie informatique de la CNT. Le thème de ce soir est le licenciement. On a déjà parlé des trois types de licenciement, ensuite de la procédure que votre employeur doit suivre pour vous licencier. Et on va finir sur le thème de la défense, c'est-à-dire comment un employé peut contester son licenciement au prud'homme.
Oui, donc on va voir tout ce qu'il est possible de faire. Enfin, tout ce qu'il est possible de faire, finalement, ça se résume en pas grand-chose au sens où on a le tribunal des prud'hommes. Enfin, pour la partie légale, en tout cas. Après, pour la partie illégale, c'est à la libre imagination de chacun. Mais pour la partie légale, un salarié, ce qu'il peut faire dans le cas où il est licencié, c'est alors, soit rien dire, partir avec son petit chèque d'indemnité s'il y a droit, et trouver un autre emploi. Bon, première possibilité. Ça paraît moche de le dire comme ça, mais malheureusement c'est le cas dans pas mal de situations. Hein. Finalement, l'employé se dit « Ah ben mince, je suis licencié, vite je retrouve un emploi et puis c'est tout, ça s'arrête là. »
Est-ce qu'il y a une indemnité obligatoire dans ce cas-là ?
Alors oui, quand même. En principe, un licenciement, l'employeur verse une indemnité. Alors, sous certaines conditions, hein, si je ne dis pas de bêtises, donc n'hésitez pas à vérifier derrière moi. À partir d'un an d'ancienneté uniquement, on bénéficie d'une indemnité de licenciement par son employeur. Et après, la somme en fait versée dépend de la taille de l'entreprise, notamment si c'est plus ou moins de 11 salariés, et donc de la fameuse ancienneté du salarié, et après de la convention collective. Ouais. Plus ou moins, la convention peut améliorer. Je vais toucher un petit mot là-dessus dans la partie indemnité, mais plus pour la synthèque qui nous concerne. Mais quoi qu'il arrive, pour normalement tout salarié, il y a une indemnité. L'employeur, il vous vire, mais... Et c'est pareil, c'est distinct du solde de tout compte. Ça n'a rien à voir avec le solde de tout compte, ni avec le paiement du préavis s'il n'est pas effectué. C'est encore autre chose. C'est une indemnité qui n'est pas due s'il y a faute grave ou lourde, par exemple. Mais licenciement éco, personnel disciplinaire ou non, hors faute grave ou lourde, tout ça, on est censé toucher une indemnité. Après, on peut aussi se porter au prud'homme et demander une autre indemnité. C'est-à-dire, c'est encore différent. C'est une indemnité du type dommage et intérêt, en fait.
Préjudice.
Ouais, ouais, préjudice, voilà, c'est ça. On dit, moi, j'ai été licencié pour tel motif, je conteste. C'est faux, c'est un mensonge, ou il n'y avait pas... C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de la cause réelle et sérieuse. C'est cette notion très importante. S'il n'y a pas cause réelle et sérieuse, et ou s'il y a vice de procédure dans le licenciement parce que la lettre n'a pas été envoyée comme il faut avec toutes les mentions, etc., on peut se porter au prud'homme et on peut demander des dommages et intérêts. Je dirais même, on devrait. Bon, sauf si effectivement la faute existe, elle est incontestable, je ne sais pas, on a vraiment, détruit du matériel, on a... fait un acte de sabotage et on peut pas se défendre parce qu'on l'a réellement fait et on peut pas le nier. Bon, là, ça vaut peut-être pas le coup, effectivement, d'aller au prud'homme pour rien et pour être débouté. Mais dans beaucoup de cas, évidemment, le licenciement est abusif. Donc, autant se porter au prud'homme. Donc, les prud'hommes, c'est quoi ? Globalement, c'est un tribunal qui règle les litiges du travail dans les entreprises privées. Donc ça, c'est important, hein, tout ce qui est public. Les prud'hommes n'ont pas de pouvoir là-dessus. Mais dans toutes les entreprises privées, on peut se porter au prud'homme. Sachant que dans quand même 70 à 75% des cas, alors moi j'ai trouvé des chiffres, 71, 75, bon ça dépend un peu, mais globalement, dans les trois quarts des cas, c'est le salarié qui gagne au prud'homme. Donc c'est pas rien. La majorité du temps, ce qui est contesté, c'est les ruptures de contrat abusives. Alors pas uniquement, évidemment, on peut aussi aller au prud'homme pour, des heures supplémentaires qui n'ont pas été payées, ou pour d'autres cas. Le contrat de travail n'est pas respecté par l'employeur, il nous oblige à faire des choses qui ne sont pas dedans. Enfin, bon, on peut y aller pour pas mal de raisons. Le plus souvent, c'est des ruptures abusives de contrat de travail. En sachant quand même que les prud'hommes peuvent être saisis aussi bien par les salariés que par les employeurs. Ça va dans les deux sens. Par exemple, vous démissionnez, vous avez un préavis d'un mois, vous ne le faites pas, vous restez chez vous. Normalement, vous êtes obligé de le faire, l'employeur peut vous attaquer au prud'homme et demander à ce que vous remboursiez le préavis que vous n'avez pas effectué, par exemple. Bon, sachant quand même que c'est un cas sur 100 où c'est l'employeur qui va au prud'homme. Dans 99 cas sur 100, c'est le salarié. Ce qui en dit peut-être long, je ne sais pas, sur les rapports dans l'entreprise. Ça, c'est mon interprétation personnelle. Alors, ensuite, le délai. Il faut savoir que ce n'est pas la peine de se précipiter tout de suite au prud'homme dès qu'on vient de se faire licencier ou dès qu'on reçoit, encore moins dès qu'on reçoit juste la lettre de convocation à l'entretien préalable. Tranquille, on a le temps. On a le temps de se renseigner, de consulter un avocat et ou un syndicat, de réfléchir, etc. Le délai pour tout ce qui est relatif à ce qui va être salaire, donc salaire et associé, c'est-à-dire heures sup à payer, primes et compagnie.
Indemnité, oui.
Indemnité, c'est 5 ans. Donc on a 5 ans pour aller au prud'homme, c'est-à-dire 5 ans après s'être fait virer, on peut dire « je conteste le motif de mon licenciement ». Ce qui laisse quand même une bonne marche pour se retourner. Et pour tout ce qui est hors litige sur le salaire, c'est 30 ans. Donc là, okay, ça laisse encore plus la possibilité de réfléchir. Donc, personnellement, ce que je conseillerais, pour l'avoir vécu, c'est vrai qu'il y a un côté... je me fais licencier, ok, je vais tout de suite au prud'homme, je prends un jour de congé.
Je vais au combat,
voilà.
J'y vais direct.
Voilà, c'est ça, couteau entre les dents, on ne réfléchit pas, on y va, coup de boule. C'est pas forcément utile et c'est pas forcément malin non plus. Vaut mieux prendre un peu de recul et se dire, ok, tranquille, je peux y aller bien après mon préavis, je peux y aller même après, si je retrouve du boulot, aucun souci. Mieux vaut attendre, prendre les informations, consulter un avocat et ou un syndicat. C'est préférable parce que notamment quand on va lancer la procédure prud'homme, il y a tout un formulaire à remplir. Bon, son nom, son prénom, son entreprise, blablabla. Mais aussi combien on demande en indemnité. Est-ce que je demande 6 mois de salaire, 1 an de salaire, 3 ans de salaire et aussi sur comment j'attaque. Voilà, qu'est-ce que je conteste, okay. Qu'est-ce que je réclame, etc. Donc ça ne sert à rien d'y aller en remplissant un formulaire, en remplissant n'importe comment, parce qu'on risque d'attaquer n'importe comment. Et du coup, d'être bêtement débouté, simplement parce qu'on s'est précipité et qu'on n'a pas réfléchi à quelle était la meilleure manière d'attaquer et quels étaient les arguments à utiliser, etc. Donc, du sang-froid, même si ce n'est pas toujours facile dans ces circonstances, il faut quand même le souligner, mais du sang-froid et on prend son temps, il y a largement le délai qu'il faut. Ensuite, alors, où aller ? Bon, bah, les tribunaux des prud'hommes, il y en a plusieurs. C'est géographique. Donc, ça dépend de l'endroit où est située l'entreprise. Sauf éventuellement pour les salariés qui bossent de chez eux, ou je sais pas, les VRP, par exemple, ceux qui n'ont pas de lieu, des bureaux, par exemple, qui ne travaillent pas dans des bureaux. Par contre, si vous travaillez dans un bureau, que vous êtes 10 Avenue de la Libération, je ne sais pas quoi, Paris. Vous vous référez au tribunal des prud'hommes de Paris. Et si vous êtes dans une autre ville, ce sera un autre tribunal, etc. Donc c'est par zone géographique de l'employeur. Sauf, comme je disais, des gens qui bossent pas dans des bureaux, dans ce cas, c'est le domicile qui compte. Et une fois que la procédure est lancée, donc comment ça se passe ? Grosso modo, on va recevoir, donc le salarié et l'employeur vont recevoir une convocation pour un entretien de conciliation. Donc là, ils vont être au prud'homme tous les deux, devant les juges des prud'hommes. Donc les juges des prud'hommes, c'est paritairement autant de représentants des salariés, autant de représentants des employeurs. Et ils sont convoqués donc, pour cette conciliation. Le but, c'est d'essayer de trouver un arrangement, entre guillemets, à l'amiable, sachant que dans la majorité des cas, ça ne fonctionne pas. Et on va donc à l'étape suivante qui est... le procès, je ne sais pas si c'est le terme technique et juridique qui va bien, mais en tout cas, on n'est plus dans la conciliation. Là, on s'affronte à coups de preuves et de plaidoiries, etc. Donc ça, le délai de conciliation, théoriquement, c'est sous un mois. Dans les faits, ça arrive sous 3-4 mois après la demande de prud'homme.
Et la conciliation, ça se fait avec un avocat ou avec un représentant du personnel ?
On peut être représenté, alors là on n'est plus dans le cadre du représentant du personnel ou autre, mais on peut être assisté d'un avocat ou d'un représentant syndical.
D'accord.
Évidemment, c'est plutôt conseillé Bon, sauf si, je sais pas, quelqu'un qui a vraiment l'habitude, qu'on a déjà fait plusieurs, parce qu'il a une expérience syndicale assez développée. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude, qui vient de se faire licencier, qui n'y connaît rien, c'est sûr que mieux vaut être accompagné soit d'un délégué syndical, enfin d'un délégué, d'un membre du syndicat, soit d'un avocat qui connaîtra bien mieux la procédure, ce qu'il faut dire, pas dire, comment se comporter, etc., quelle pièce apporter avec soi et compagnie. C'est plutôt recommandé. Sachant que pour ouvrir une procédure prud'homme, c'est pas onéreux, heureusement, enfin, heureusement, malheureusement...
Il y a quand même un ticket.
Ouais, depuis le passage du Nain, alors je crois que c'était en 2008, mais en tout cas, avant c'était complètement gratuit, donc on pouvait lancer une procédure prud'homme totalement gratuitement. Aujourd'hui, malheureusement, ça coûte 35 euros de timbre fiscal. Sauf si, bon, dans certaines conditions, quand on a pas assez d'argent, etc., on peut être, quand on bénéficie de l'aide juridictionnelle, ces choses-là, voilà, on peut être dispensé. Pour les autres, c'est 35 euros de timbre fiscal. Heureusement, c'est pas considérable, donc ça permet toujours d'ouvrir des procédures. Mais c'est vrai que ce genre de magouille, c'est quand même pas bon, parce que sait-on jamais que ça passe à 60, puis à 90, puis à 150 euros au fil du temps, ça va quand même dissuader, je pense, beaucoup de monde, malheureusement, de lancer des procédures. Donc, en tout cas, on a cette possibilité et on peut être assisté. Alors, pour les avocats, alors soit on y va tout seul, déjà, donc ça coûte, bon, zéro, ça coûte du temps, ça coûte de l'énergie, mais ça coûte zéro financièrement parlant. Soit on y va avec le syndicat, donc soit vous n'êtes pas syndiqué. Dans ce cas-là, en général, un syndicat, quel qu'il soit, vous demandera d'adhérer au minimum pour qu'on s'occupe du dossier. Soit bah, vous êtes syndiqué, évidemment, bah, voilà, vous y allez avec une personne, un référent du syndicat. Ou troisième possibilité, l'avocat. Bon, là, c'est payant, hein, bien sûr, faut pas pas se mentir. Deux possibilités. Soit c'est un forfait. Donc l'avocat va vous dire, voilà, pour toute la procédure, je vous prends tant. En général, ça va coûter 1 500-2 000 euros, en grosso modo.
C'est un prix fixe, ça peut pas être un pourcentage des dommages d'intérêt,
ouais,
si. Par exemple,
mais
si
ouais,
aussi.
Tout à fait. Ça peut. Après, il faut voir avec l'avocat. Hein. C'est.
Ouais, ça se négocie.
Ça se négocie ou c'est selon sa méthode perso, mais ça peut être effectivement zéro jusqu'à la victoire, si victoire il y a, et en ce cas, il prend un pourcentage qui va être grosso modo 10%, quoi.
Okay.
En moyenne, enfin la norme, on va dire, ça, c'est à peu près 10% de ce qui va être gagné. Ce qui peut être avantageux quand on n'a pas la somme à avancer ou qu'on n'est pas certain de gagner. Bon, au moins, voilà, on n'a pas à débourser.
On prend pas de risque.
Voilà, c'est un peu ça. Après, bon, à voir avec l'avocat lui-même. Alors, ce qu'il faut savoir quand même pour finir sur le prud'homme, c'est que c'est une procédure qui peut être assez longue. Ça peut durer jusqu'à 2-3 ans au total, donc, c'est-à-dire entre le moment où on l'a lancé et le moment où les juges disent bon, victoire ou défaite et le montant, choisissent le montant des indemnités s'il y en a. Donc c'est long. D'un autre côté, c'est juste long, j'ai envie de dire. Bon, si, c'est un peu de temps aussi, c'est un peu d'énergie pour constituer le dossier, discuter avec l'avocat, mais c'est pas non plus passer tous ses week-ends pendant 3 ans sur son dossier prud'homme. C'est on voit l'avocat, on réunit les pièces, on discute de l'axe de défense. Après, c'est simplement la convocation qui prend beaucoup de temps. Des fois, il peut y avoir report de l'audience parce que une des parties a mis trop de temps à donner ses pièces. Du coup, l'autre partie demande un report. Enfin bon, c'est ce genre de choses qui fait que au final, ça dure 2 à 3 ans, mais je dirais qu'il faut vraiment le faire, quoi.
C'est pas lourd. Mais une fois que la convocation, enfin que le jugement a lieu, est-ce que le jugement est rendu juste après l'audience? Ou est-ce qu'il y a encore des délais? Est-ce qu'il y a des recours possibles?
Bah, il y a un appel.
Il y a un appel, ok.
Il peut y avoir appel, donc l'une ou l'autre partie peut contester, et donc dans ce cas, il peut y avoir appel. Donc c'est pour ça aussi
un deuxième jugement.
Pareil, ça dure longtemps, ouais. Tout à fait. Parce que le premier jugement est rendu, puis appel, donc hop, c'est reparti, un autre tribunal. Enfin, d'autres juges se penchent sur le dossier, donc bon, c'est ce qui fait que c'est long. Effectivement, il y a des recours possibles, mais je pense qu'il ne faut pas lâcher, surtout si on pense vraiment pouvoir gagner, qu'on a de bonnes chances de gagner, parce que finalement, on n'a pas grand-chose à perdre, on a surtout à gagner. Enfin, alors après, si on peut avoir à perdre, quand même, il faut quand même le signaler, si on se lance dans un prud'homme et qu'on perd parce que bon, finalement le motif était jugé réel, etc., on peut être amené à payer les frais d'avocat de l'employeur, à payer quelques indemnités en faveur de l'employeur. Bon, cela dit, en fait, c'est à voir en fonction du cas. Est-ce qu'on pense qu'on a de grosses chances de gagner, moyennes ou quasiment insignifiantes, voilà.
Il y a quand même un risque financier.
Il peut y avoir un risque.
Ouais.
Il peut y avoir un risque si on est débouté de sa demande, effectivement, à payer les frais de l'entreprise. Pas forcément, même si on perd, mais ça peut être un risque. Quoi. Bon, faut quand même le savoir. Donc, faut quand même juger. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir un avis de personnes expérimentées, que ce soit des syndicalistes ou un avocat, qui sont des personnes qui a priori vont pouvoir dire ok ça vaut le coup ou ok laisse tomber, c'est pas du tout la peine, tu vas te casser les dents pour rien. Bon, mieux vaut quand même savoir à l'avance, ça sert à rien de se lancer dans 3 ans de procédure pour payer des dommages à l'employeur, quoi. C'est un peu ce sera un peu moche, quoi. Mais bon, si on est un peu sûr de soi, en revanche là ça vaut vraiment le coup. Comme je disais tout à l'heure, la majorité des cas c'est quand même le salarié qui l'engage. Hein. Et puis moi, j'ai même connu, dans le cas du licenciement économique que j'évoquais tout à l'heure dans mon entreprise, mon employeur, quand il m'en parlait, là, il y a 2-3 ans, c'était « Ouais, non, ça devrait aller. Normalement, on a de bonnes chances, nous, de gagner. Ils n'ont pas grand-chose, nanana. » Et puis au final, 2 ans plus tard, ils se sont pris 2 fois 15 000 euros de dommages et intérêts dans la tête.
Mais ils étaient pas trop bien préparés, mais dans certaines grosses boîtes, les boîtes estiment le risque qu'ils ont de perdre au prud'homme, ainsi que l'indemnité qu'ils auraient à payer, et c'est mis en budget, enfin, c'est prévu d'une certaine manière.
Oui, tout à fait, c'est clair. Hein. Il y a des employeurs, carrément, ils licencient, ils savent que
ils
la
savent
cause
qu'ils
est
prennent bidon. Un risque, voilà.
Et ils se disent, bon, si on m'attaque pas au prud'homme, bah, tant mieux, j'y gagne. Si on m'attaque, bon, bah voilà, ça va me coûter 6 mois de salaire, en gros, ou 1 an, admettons, et effectivement, comme tu dis, ils ont budgété ça, ils savent que c'est sur le compte, et puis bah, ils envoient l'argent. Ça, c'est vrai que c'est un peu le... Ce qui est dommage dans le système actuel, c'est que certes, on peut attaquer au prud'homme pour faire reconnaître que il y a eu licenciement abusif, mais bah, dans l'histoire, on est quand même licencié. Quoi. On peut pas... Alors si, il y a des cas où le juge peut prononcer la réintégration dans l'entreprise, ça existe, mais l'employeur ou le salarié peuvent refuser cette réintégration. Donc au final, puis bon, on voit bien, après 2 ou 3 ans de procédure, en général, on a refait sa vie ailleurs. Enfin, il faut espérer, en tout cas, pour les salariés, qu'ils retrouvent un emploi, quelque chose comme ça. Donc, et puis être réintégré, bon, voilà, quand il y a eu 2 ans de procédure, de conflit, qu'on s'est séparé en des termes qui ne sont pas forcément toujours, qui sont même souvent, j'imagine, le plus souvent, peu amènes, se faire réintégrer, bon, voilà, on imagine tous que c'est pas... que c'est pas la panacée. Donc voilà.
Mais quand même, pour les entreprises qui ont ce genre de pratique, tu disais la dernière fois qu'il y a un risque, c'est-à-dire que la jurisprudence joue beaucoup, quoi. C'est-à-dire que si tu attaques une entreprise qui a déjà perdu plusieurs fois au prud'homme, a priori ça joue à fond en ta faveur.
Ah oui, bah de toute façon, les prud'hommes, c'est beaucoup de jurisprudence, enfin beaucoup de, pas de subjectif, mais d'appréciation des juges, quoi. Bon, bien sûr, il y a des règles qui disent que, voilà, si elle y vise de procédure, parce qu'ils ont envoyé la lettre de licenciement trop tôt. Bon, là, c'est très objectif, c'est incontestable, quelque part, c'est facile. Mais il y a beaucoup de... Notamment tout ce qui est contestation des motifs de licenciement, effectivement, c'est... moi, je considère que ça, oui, mais non, moi, je considère que ça, et c'est le juge qui tranche. Donc, c'est effectivement très à l'appréciation, à l'appréciation des juges de savoir ça, donc...
Mais ce que je voulais dire, c'est l'historique rentre en compte, quoi. Donc, les patrons voyous qui ont cette tactique de bon, ben, je licencie à tout va et puis je paierai les prud'hommes s'il faut, ils ont un bonus à la perte, enfin, ils sont sûrs de perdre derrière s'ils continuent leur pratique. Bah, quoi.
Sachant qu'il n'y a pas de règle, c'est vrai que si ton patron il a déjà perdu 10 prud'hommes avant toi, c'est pas pour autant qu'il va être pénalisé de temps. C'est pas dit comme ça, mais on peut demander aux prud'hommes, ça il faut le savoir, on peut demander aux prud'hommes tous les cas de. Bah de procès, enfin de litiges qui ont eu cours entre telle entreprise et X employés. Ça, c'est public. Hein. D'ailleurs, n'importe qui peut le demander, pas forcément un employé de l'entreprise. Et on peut l'utiliser, évidemment, au prud'homme en disant, bah, vous voyez, cette entreprise-là, pas sérieuse. Elle a déjà eu 4 prud'hommes sur le dos, elle en a perdu 3. Enfin, et bien sûr, c'est quelque chose que les juges prennent en compte pour faire leur jugement. Ça ne veut pas dire que parce qu'il y a eu 10 prud'hommes qui ont été perdus, forcément le nôtre, on va le gagner aussi, mais ça joue quand même pas mal.
Ça rentre dans la balance.
Oui, complètement. Et ça, c'est ça, faut surtout pas hésiter à ressortir les vieux dossiers et à dire, voyez, mon entreprise, regardez le nombre de prud'hommes qu'ils ont aux fesses et regardez le nombre qu'ils ont perdu. Voilà, c'est, clairement, ça vous donne un avantage. Et moi, là-dessus, la mienne, je peux vous assurer que j'ai un sacré avantage. Donc voilà à peu près ce qu'on peut dire, je pense, sur les prud'hommes. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, on peut détailler. On va peut-être faire une dernière coupure avant de passer aux preuves et aux droits qu'a le salarié dans toutes ces procédures. We want a mono jam.
Vous venez d'écouter Ramshackle Glory et donc c'était We Are All Compost in Training. Oui, tout un programme. Alors voilà, c'est les dernières minutes du monde merveilleux du travail. Voilà, à vous.
Eh bien oui, comme le disait Colin, dernière minute, donc on va essayer de la faire courte. On a encore quelques points à évoquer et puis ben, la petite conclusion qui va bien. Donc, pour rappel, on vous parle du licenciement ce soir. Là, on va évoquer comme dernier point les droits du salarié, et en particulier, plus précisément, des droits relatifs à la Syntec, puisque bon, c'est notre convention en général, en tout cas dans tout ce qui est informatique, bureau d'études. Donc, un petit retour rapide sur le préavis, on en a déjà parlé, on ne va pas s'étendre plus que nécessaire. Simplement, sachez que c'est l'article 14 de la Syntec et qui définit la durée du préavis, qui varie en fonction du statut, suivant qu'on est employé, suivant qu'on est agent de maîtrise, suivant qu'on est ingénieur ou cadre, c'est plus ou moins long, suivant l'ancienneté aussi, ça peut être plus ou moins long. Donc référez-vous bien à la convention pour savoir quelle est la durée de votre préavis. Petit point qui n'est pas là dans la convention ni dans le code du travail, mais qui est intéressant à savoir. Pendant votre préavis, vous êtes tenu de le faire, vous êtes tenu d'être présent dans l'entreprise, à moins que l'employeur vous fasse un courrier disant qu'il vous en dispense, mais comme on a dit tout à l'heure, il doit vous rémunérer. Sinon, vous êtes tenu de le faire. Vous ne pouvez pas, vous, en tant que salarié, décider de ne pas le faire et d'être rémunéré ou une chose comme ça. Si vous ne le faites pas, non seulement on ne vous rémunérera pas, mais on peut vous attaquer. En revanche, vous pouvez faire une grève du zèle. Enfin, vous n'êtes pas obligé d'en faire tant et plus. Vous pouvez facilement faire en 3 jours, en 10 jours, ce qui vous en aurait pris que 1 ou 10 minutes. Ça, voilà, après l'employeur, c'est très difficile pour lui de vous attaquer en disant « Ah là là, il n'a pas fait d'effort, il a été lent, etc. etc. » Donc ça, n'hésitez pas, dès que vous pouvez faire chier, faut les pourrir, faut leur faire perdre du temps, faut faire l'idiot, faut faire durer, hein, ça, tant qu'on peut. Ensuite, quelques autres droits importants, notamment les jours de recherche d'emploi. Donc pareil, dans la syntaxe, c'est l'article 16, et l'article 16 dit qu'on a le droit à 6 jours de recherche d'emploi par mois de préavis. Donc si vous avez un mois, vous avez 6 jours, si vous avez 3 mois, vous avez 18 jours. Sachant que c'est des jours que vous pouvez poser et qui n'impactent pas votre rémunération. Donc on ne peut pas vous retirer le salaire pour ces absences-là. Donc vraiment, prenez-les parce qu'il n'y a aucune raison d'offrir des jours quelque part à l'employeur. Donc prenez vraiment tous les jours de recherche d'emploi que vous avez, que vous cherchez de l'emploi ou pas d'ailleurs. Hein, si jamais vous avez déjà un emploi pour la suite, tant mieux pour vous. Mais ça ne vous empêche pas de prendre ces jours-là, notamment par exemple en fin de préavis, comme ça vous écourte la durée de présence. Deux autres petits points sur les droits. Il y a le droit au DIF, c'est-à-dire au droit individuel de formation. Alors c'est pas un truc extraordinaire, hein, faut pas se faire des idées, mais c'est toujours ça de prix. Pendant tout ça, tant qu'on est salarié, on cumule des heures de droit individuel à formation. On en cumule 20 heures par an, plafonné à 120 heures, donc sur 6 ans. Sachant que l'employeur est tenu de verser 9,15€ par heure de DIF. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser ce DIF, sur des petites formations. Formations d'un jour, deux jours, qui vont coûter, 800, 900, 1000 euros, des choses comme ça. Petite formation de perfectionnement, c'est toujours ça de prix. Ça leur fait cracher un peu d'argent. Il ne faut pas s'en priver. Et sachant que pendant que vous êtes en préavis, l'employeur ne peut pas vous refuser ça. Si vous êtes hors préavis, vous êtes censé lui proposer, dire voilà, je voudrais faire tel DIF, ça va coûter tant, blabla. Il peut refuser, bon, il y a des procédures. Quand vous êtes en préavis de licenciement, il ne peut pas refuser. Donc profitez-en, c'est toujours ça de prix. Sachant qu'en plus, si vous l'effectuez sur vos heures de travail, donc pendant le préavis, on ne peut pas vous retirer la rémunération pour ça. Dernier point sur l'indemnité de licenciement. Donc ça, on en a déjà parlé un peu tout à l'heure. Pareil, on ne va pas revenir trop là-dessus. Mais en gros, c'est l'article 19 de la convention qui joue. Et c'est ce qui va vous permettre de calculer le montant de votre indemnité de licenciement. Suivant, pareil, que vous êtes employé ou technicien ou cadre ou machin, ça varie. Le taux n'est pas le même. Sachant qu'il y a une base, évidemment, dans le code du travail. La convention, bon, c'est pas la plus formidable du monde, hein, ça faut le dire. Mais elle améliore un tout petit peu le montant de l'indemnité. Donc calculez bien votre indemnité et vérifiez que c'est bien ce qu'on vous donne quand on vous la transmet. Vous ne faites pas avoir là-dessus. Et enfin, avant de conclure, en une minute, oula, c'est rapide, le chômage, évidemment, vous y avez droit. Donc n'hésitez pas à vous inscrire évidemment à Pôle emploi, sachant que vous ne pouvez pas vous préinscrire. Hein, vous ne pouvez pas y aller pendant votre préavis. Il faut que vous y alliez le lendemain ou plutôt de votre fin de préavis avec votre attestation Pôle emploi délivrée par l'employeur. Là, vous pouvez vous inscrire, vous aurez droit au chômage, etc., ce qui vous évitera des déboires financiers. Et bien voilà, on a fait le tour, un petit peu vite sur la fin pour boucler, mais je pense qu'on a fait le tour. Donc en conclusion, documentez-vous bien en cas de licenciement. Vous avez énormément de parades et de moyens de vous défendre si vous vous y prenez bien. Et si vous êtes de l'informatique et que vous avez ce genre de problème, n'hésitez pas à venir nous voir. On sera ravis de vous aider du mieux qu'on peut. Voilà, on vous souhaite à tous une bonne soirée et on vous dit à bientôt sur Radio Libertaire pour de nouvelles aventures syndicales.